Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé, un trésor. L'émission de Votre Santé, un trésor que je vous propose aujourd'hui se cristallise sur une rencontre avec une personnalité nîmoise qui a marqué le droit français, Madame Georgina Dufoy, née Georgina Nègre. En premier lieu, bonjour à vous, Madame.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Alliance que je connais peu, parce que j'ai peu l'occasion de les rencontrer maintenant, mais que je salue très, très chaleureusement.
Mais ils vous écoutent, et puis il faut que vous écoutiez Radio Alliance. Madame Dufoy a été ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale de 1984 à 1986. Madame Dufoy est titulaire d'un DESS en sciences économiques. Georgina Nègre est la fille d'Alain Nègre, directeur d'un garage automobile et conseiller municipal de Nîmes sous le mandat d'Edgar Teillade. Elle est issue d'une vieille famille protestante et à Nîmes, tout le monde la connaît. Vous savez très bien, madame, que tout le monde vous connaît. Nous avons eu un ami commun, le docteur Robert Guterres, qui a travaillé pour votre ministère et que nous avons évoqué dans Votre Santé, un trésor avec sa fille et le livre qu'elle a écrit sur lui et qu'elle lui a consacré.
Un type formidable.
Et un confrère et un maître pour moi.
Un homme extraordinaire, y compris sur le plan tout à fait humain, même, mais techniquement aussi un homme formidable.
À la rencontre de Madame Georgina Dufoy, une Nîmoise devenue ministre, Georgina Dufoy, Jacques Jaume. Bonjour Madame et merci encore, merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui et de nous donner votre temps. Vous pouvez nous présenter, vous précisément, mieux que ce que je viens de le faire.
Vous savez, je suis âgée maintenant et donc ma vie a été très longue. Ce qui veut dire que je peux dire beaucoup, beaucoup de choses présenter.
Je vous demanderai d'être court parce que nous n'avons que 25 minutes.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se présenter de mille façons différentes. Et quand on voit une longue vie, j'ai 82 ans, quand on voit une longue vie, on voit énormément de façons différentes de la présenter. Et vous l'avez présenté d'une certaine façon, ça n'en est qu'une. Et c'est probablement pas la
celle que vous préférez.
Si, j'aime énormément, j'aime beaucoup avoir servi les Français. Pour moi, vous savez, je suis né après la guerre, à une époque où mon père et mon grand-père avaient fait les deux guerres mondiales. Et pour moi, c'était très, très important de servir la France. Et là, je l'ai fait, donc je suis contente. Mais je n'ai pas fait que ça dans ma vie.
Alors, tout le monde, évidemment, en France et à l'étranger, vous connaît pour avoir été ministre des Affaires sociales de la Solidarité nationale de 1984 à 1986, à la suite de Pierre Bergoglio dans le gouvernement Laurent Fabius. Vous avez été plusieurs fois ministre. Pourquoi la politique? Comment êtes-vous venu à la politique?
Je suis venu à la politique pour deux choses assez périphériques. La première, c'était que quand j'ai eu un quatrième enfant et que mon mari, à ce moment-là, a décidé de venir s'installer à Nîmes. Et je n'avais pas de job. On habitait Aix-en-Provence à l'époque. Je travaillais dans le domaine culturel et je n'avais pas de travail. Donc j'ai pris mon petit garçon qui avait 4 ans sur les épaules et j'ai dit mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'étais un peu 68 arde à l'époque. Et on s'est rendu compte que j'avais pas de job immédiat et que par contre les socialistes avaient besoin d'un coup de main. Parce que leur chef de l'époque était malade.
Le chef local, en fait.
De Nîmes, oui. Et donc, je leur ai dit, si vous voulez, je viens. Donc, je suis venu bénévolement à la Fédération Socialiste, qui est juste derrière chez vous, là. Qui était juste derrière chez vous, rue de la Madeleine. Et en fait, j'ai travaillé à la campagne de François Mitterrand.
D'accord, donc vous avez travaillé et vous êtes devenu leader du Parti Socialiste au niveau local.
Mais un leader qui collait les affiches et qui... Non, et surtout qui collait les enveloppes.
Hein. C'était leader... On commence toujours comme ça, par petites mains.
Au tout petit pied.
Alors vous avez occupé d'autres fonctions avant votre ministère. Alors je les cite, pour que les gens le savent quand même, c'est pas uniquement... Alors vous avez été secrétaire d'État à la famille en mai 1981, mars 1983, dans le gouvernement Mauroy 1 et Mauroy 2. Où vous avez lutté contre la paupérisation du parent, généralement bien évidemment la mère, qui élève seule ses enfants. La CAF verse ainsi une allocation parent-orphelin aux parents qui ne perçoivent pas la pension alimentaire due pour les enfants. Ça, c'est de votre fait. Secrétaire d'État à la famille, à la population et aux travailleurs immigrés de mars 83 à juillet 84 dans le gouvernement Mauroy III, vous avez alors signé une lettre ouverte dans Le Monde de 1983, osez parler de la maltraitance à l'enfant. Donc, le mal-être des gens, pour vous, est une préoccupation. Donc, vous ne faites pas que de la politique. Vous occupez aussi des personnes. Ministre des Affaires sociales de la Solidarité nationale, vous avez créé un institut de l'enfant et de la famille en réponse à l'une des 110 propositions du candidat François Mitterrand. Avec vous, tout enfant, même handicapé, a le droit d'être adopté. C'est quand même une avancée énorme. Qu'est-ce qui vous a porté vers cette fibre sociale et ce besoin d'aider l'autre au sein de la structure, de la structuration du social? Parce que vous avez fait de la politique, mais vous avez œuvré pour le bien-être des autres.
En fait, ce qui m'a vraiment fait démarrer dans la réflexion politique à ce moment-là, c'est un slogan tout simple de François Mitterrand qui disait « changer la vie ». Et moi, ça m'intéressait énormément d'être un acteur, de changer la vie, la mienne et celle des autres. On était avant 81, hein, puisqu'il va gagner sur ce slogan en 81. Donc c'était dans les années 78, à peu près. Changer la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour chacun d'entre nous, ça veut dire une chose différente. Et j'ai eu l'impression que le monde politique était un bras séculier pour faire ça. Et j'ai toujours pensé que ma vie servait à ça. Donc, je suis rentré en politique avec cette idée-là. Dire qu'est-ce qu'on peut changer qui fait que les gens soient plus heureux. J'ai plus une vocation à espérer que les gens soient plus heureux qu'une vraie vocation sociale au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire au sens pauvreté. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que les gens soient heureux. Et ça m'habite.
D'accord. Alors, c'est quand même très important parce que, aujourd'hui, quand on voit le monde politique, je vous rappelle qu'on est en novembre 2025, ça c'est pour le podcast, et si on nous écoute dans un an, on voit quand même un théâtre politique un peu bizarre quand même, hein, de l'entre-soi. Et de,
très confus dans tous les
voilà,
cas.
C'est confus, c'est quand même très inquiétant pour les citoyens et les gens, les imposables comme nous. Et vous, j'ai pas eu l'impression que vous ayez fait de la politique pour faire de la politique. La politique a été un moyen pour créer, pour faire... Alors j'en suis d'autant plus certain, puisque j'en ai discuté avec Robert Gutiérrez, que vous avez fait travailler, hein, qui montait à Paris régulièrement et qui était un de vos conseillers. Et vous avez été une politique à la manière des Grecs de l'époque, c'est-à-dire pour la cité, c'est-à-dire que vous avez une
mais
autorité...
Mais il y a ça qui m'intéresse. Je m'en fiche complètement d'une carrière politique.
Et pourtant, elle a été brillante, là, pourtant. Vous avez
Elle a été double. Elle a été brillante et elle a été très apprécié et très déprécié, les deux.
Et j'ai... De côté déprécié, on va en parler dans une autre,
oui,
une autre
deux,
émission.
Oui, mais moi, dans ma vie,
mais
les deux ont
existé. Dans votre vécu, c'est une chose. Mais maintenant, loin de ce côté négatif...
Je ne suis pas si négatif, j'ai gardé beaucoup de...
Oui, beaucoup de cicatrices, j'imagine.
Non, beaucoup d'amitié.
Ah bon, mais quand même, vous avez rebondi, si vous me permettez. C'est-à-dire que vous avez créé le droit. Hein, donc, vous avez, c'est quand même, a posteriori, quelque chose de positif.
Écoutez, comme toujours, c'est assez difficile de parler d'une vie et d'en parler dans un angle orienté. Pour moi, j'ai fait de la politique parce que j'avais envie d'aider les gens à être plus heureux. Et je me suis planté. C'est-à-dire que ce n'est pas la politique qui rend les gens plus heureux, c'est autre chose qui rend les gens plus heureux. Au mieux, je me suis aperçu que changer la vie, c'était d'abord changer ma vie avant de changer la vie des autres.
Oui.
Et ça c'est une superbe leçon pour moi quand je me retourne et que je regarde ma vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager, en fait. C'est quand on se change soi-même qu'on change autour de soi.
Oui.
La politique est un moyen qui n'est pas du tout aussi minable que ce qu'on dit à l'heure actuelle et qui n'est pas du tout aussi méprisable que ce qu'on dit à l'heure actuelle. Au contraire. Et je crois que le regard méprisable qui est porté sur les politiques à l'heure actuelle est quelque chose qui amoindrit la démocratie et qui amoindrit le bonheur de vivre dans un pays démocrate. Donc je ne suis pas du tout critique à l'égard des hommes et des femmes qui font de la politique aujourd'hui. Je n'admire pas leur action, mais je continue à penser qu'ils font un bon boulot pour les autres.
Oui, mais je crois qu'il faut différencier la politique et le politique, qui reste, lui, en valeur absolue, indispensable. Et puis, certaines personnes qui l'utilisent mal escient ou mauvais, ou qui donnent une image, ou qui l'utilisent pour oui. Vous n'avez jamais utilisé le politique pour vous. Vous avez toujours utilisé le politique pour créer des choses concrètes. Je n'ai cité qu'une partie.
Mais vous savez, même aujourd'hui, où on critique le gouvernement beaucoup, même aujourd'hui, et je suis d'accord qu'il y a une confusion politique qui est déplorable. Hein, je ne suis pas du tout une admiratrice aveugle. Mais il y a là-dedans des gens remarquables. Et il y a là-dedans des gens qui se lèvent la peau pour les autres, qui ne sont pas du tout uniquement dans leur carrière. Le gouvernement actuel, dont on parle avec un certain désinvolture, il y a des gens sensationnels dedans.
Il y a toujours des gens très bien.
Non, mais dans celui-là particulièrement.
Oui.
Or, ils vivent une situation politique intenable. Mais il y a vraiment des gens compétents, passionnés par les autres, passionnés par leur vie. Donc il ne faut pas non plus mettre le monde politique globalement sous une chape de mépris. C'est pas juste.
Si je vous remercie comme ça, on voit que le travail sur vous que vous avez fait en politique a été bénéfique. En fait, la politique pour vous a été un parcours initiatique qui vous a permis de vous découvrir, de vous changer.
C'est pas lui qui m'a permis de changer, c'est Jésus-Christ qui m'a permis de changer. Mais ça m'a donné le sens du collectif, ça m'a donné le sens de la France, ça m'a donné le sens de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire.
Mais alors, puisque vous citez le Christ, est-ce que pendant votre action politique, il était près de vous ?
Non, il est arrivé dans ma vie le 8 août 88, à un moment donné où je quittais un gouvernement que vous n'avez pas cité, qui est celui de Michel Rocard, parce que j'étais battu aux élections à Nîmes. Et étant battu, tous les battus sortaient du gouvernement. Donc j'ai quitté mon poste au gouvernement de Michel Rocard et je suis rentré au cabinet de François Mitterrand. Et la présence de Dieu est venue dans ma vie entre ces trois semaines-là.
Eh bien, c'est une belle histoire et surtout une belle présence.
C'est ça qui m'a changé.
Oui, je vous propose une trêve musicale avec une sonate de Beethoven, la 14, opus 27, numéro 2, dite « Clair de lune, adagio, sostenuto » par Valentina Lesitsa, une pianiste ukrainienne, c'est pour ça que j'arrive difficilement à prononcer son nom, née à Kiev le 11 décembre 1993 et habitant actuellement la Caroline du Nord, vu ce qui se passe en Ukraine. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Madame Georgina Dufoy. Rebonjour à vous, Madame.
Bonjour à tous.
Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos réalisations en tant que secrétaire d'État ou de ministre qui vous ont le plus frappé ? et qui vous ont le plus intéressé, et frappé.
Alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est pas généralement ce qui a été le plus public. Donc, je vais pas aller sur des choses où vous trouverez, où vous retrouverez.
Non, mais c'est vos réponses qui m'intéressent.
Vous retrouverez des décrets qui les matérialisent. Mais ce qui m'a intéressé en par rapport à, au secrétaire d'État à la famille, qui a été mon premier poste, ça a été de réaffirmer la solidarité des êtres humains qui composent ce qui s'appelle une famille. Je suis arrivé donc en 81 dans un moment où on disait la famille, c'est ringard, c'est de droite, on est de gauche. Globalement, le premier interview que j'ai fait, c'était le journaliste m'a dit « Famille, je vous hais !» Moi, j'étais un peu paniqué, c'était le premier des interviews que je faisais. Et moi, j'avais vraiment à cœur de défendre ce que représente une solidarité familiale. C'est-à-dire une famille, pas tellement sur le plan du bisounours, mais sur le plan d'une solidarité entre générations, que moi j'ai vécu à Nîmes ici très fort. Mes grands-mères, mes arrière-grands-mères habitaient Nîmes et ils ont été très importants dans ma vie. Mes frères et sœurs aussi, mes parents bien sûr aussi. Et donc cette solidarité familiale m'a toujours paru comme étant la force d'un être humain, la force sociale.
Excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez... Quatre enfants.
Nous avons quatre enfants, oui. Nous avons quatre enfants. Mais ce qui est né en moi dans la famille, c'est né dans ma propre enfance. Mmh. Et ma propre enfance s'est passée à Nîmes, avec des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui habitaient là. Ce qui d'ailleurs, à l'âge de 18 ans, était un peu lourd, mais a formé une force sociale qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est ça que je voulais essayer de dire. À une époque où la famille se délitait déjà, mais moins que maintenant. Maintenant, ça c'est énormément... l'idée familiale s'est énormément délitée, du moins à l'extérieur, et l'individualisme paraît beaucoup plus triomphant. Néanmoins, lorsqu'il y a un pépin dans le genre du Covid et tout ça, et qu'est-ce qui revient ? C'est justement la solidarité familiale. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui cette solidarité avec d'autres formes. Ce n'est pas du tout la peine d'être la famille bourgeoise du 19e siècle. Il y a d'autres formes familiales à retrouver. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel.
Et vous, dans la famille, c'est l'entraide, vous venez de nous dire, mais aussi il y a un problème affectif, d'amour.
Oui, il y a un problème affectif, mais l'affectif est essentiel. On ne peut pas vivre sans amour, ça me paraît évident. Mais il y a des jours où ben, vous n'aimez pas du tout. Il y a des jours où vous avez envie plutôt de fuir les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents.
Comme dit l'adage, on choisit ses amis, mais pas sa famille.
Oui, si vous voulez. Mais en fait, ce que je voulais réaffirmer, et ça j'ai essayé de le réaffirmer dans tous les décrets que j'ai faits à ce moment-là, en particulier même financiers, j'avais heureusement un formidable partenaire dans le gouvernement qui était Jacques Delors. Et Jacques Delors aimait beaucoup la famille. Et donc, on avait de longues conversations pour dire comment on pourrait faire pour que la fiscalité prenne en compte la famille. Alors que la tendance était un peu contraire. Mm-hmm. La tendance était de dire il faut que chacun ait sa propre autonomie. Je crois très important qu'on retrouve ça, qu'on le retrouve différemment, bien sûr. Mais qu'aujourd'hui, où on change de civilisation, je pense que...
Ah oui, on change de société, de civilisation.
Oui, absolument. Et l'intelligence artificielle, qui est mon travail d'aujourd'hui, est certainement quelque chose qui va bouleverser complètement nos façons de vivre. Faut-il pour autant aller vers beaucoup d'individualisme, ou bien est-ce que le fait de se sentir solidaire d'un homme, d'une femme, d'enfants, de parents, de grands-parents, est-ce que ça doit sauter en l'air ? Eh bien, ma réponse est non. Et je crois que la vie sociale n'a de sens que si cette solidarité existe.
Alors, peu de gens
Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question.
Si,
mais néanmoins, c'est l'idée directrice de ce que j'ai essayé de faire comme secrétaire d'État à la famille.
Si, moi, j'ai mes questions, mais vous avez vos réponses.
Non, il vaut mieux que j'essaye de m'adapter.
Non, mais vous n'adaptez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens vous connaissent, vous apprécient, vous connaissent peut-être sur un jour différent de ce qu'on vous a montré jusqu'à présent. Alors, vous avez amené l'Union européenne à créer en fin 1989 le Comité européen de lutte anti-drogue, oui. Le CELAD. Oui. Votre initiative a été le point de départ de la politique européenne développée depuis lors dans ce domaine. C'est quand même très très important, vu l'état actuel de la toxicomanie. Vous voyez que le gaz hilarant, etc., la drogue devient quotidienne, surtout chez les jeunes. Pourquoi la lutte contre la drogue qui
pas
est encore...
Pas que chez les jeunes.
Non, pas que chez les jeunes, mais...
Et c'est ça qui, en... c'est
on
ça qui pose un problème.
On voit beaucoup chez les jeunes parce qu'il y a des... Ouais. Mais c'est intergénérationnel. Pourquoi la lutte contre la drogue, qui est encore plus un fléau aujourd'hui, vous a-t-elle mobilisé à l'époque ?
Tout simplement parce que j'ai été nommé responsable de ça par François Mitterrand. J'étais à son cabinet et je lui ai dit, écoutez, à votre cabinet, il y a des gens formidables, vous n'avez pas vraiment besoin de moi, je peux faire autre chose. Il m'a dit, est-ce que vous pourriez faire ça ? Il m'a proposé aussi d'ailleurs un poste politique que je n'ai pas du tout...
Est-ce que vous pouvez nous dire lequel ? Ça serait historique, comme ça les historiens écouteront l'émission.
Non, c'est connu. Il m'a proposé d'être Premier ministre en 1991.
Et si on vous proposait d'être Premier ministre actuellement ?
je n'ai même pas imaginé ce genre de choses. Mais à l'époque, j'ai dit non, tout simplement parce que mon mari était malade et que je me suis dit, la chose la plus importante dans ma vie, c'est d'être là quand les gens ont besoin de moi. Pas d'être Premier ministre quand mon mari tombe malade. Il avait un cancer très, très avancé. Et donc, j'ai dit non, je ne suis pas disponible ni dans ma tête ni dans mon temps pour le faire. Et il a nommé Edith Cresson. Parce qu'il voulait une femme, en fait. Bien sûr, ça a été dans les journaux, donc je ne dis aucune... Je ne raconte aucune... Rien
mais
de...
Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez choisi votre famille.
Mais oui, mais c'est tout le temps comme ça. Toute ma vie, c'est comme ça. Et je ne regrette pas
mais
du tout.
C'est peut-être cette Georgina Dufoy qui est intéressante de découvrir.
Ah bon ? Ben c'est celle que les gens connaissent aussi, vous savez, peut-être pas à travers les médias.
Je ne crois pas,
mais,
non.
Mais à travers la... Ma vie, c'est clair. J'ai toujours mis ça en priorité. Mais si vous voulez, donc, et à ce moment-là, il m'a dit, mais est-ce que vous feriez ce type de tâche ? J'ai dit, volontiers, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, à la suite de ça, j'ai été nommée comme présidente de le truc qui s'appelait la lutte, ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus du titre.
C'est le comité européen de
non,
lutte.
Non, mais ça, c'est ce qu'on a créé.
Ça, c'est créé, mais
je ne me rappelle plus le titre. Mais ce qui est intéressant... C'est de voir qu'en fait, à l'époque, c'était la cocaïne qui faisait le plus de dégâts. On parlait beaucoup des drogues relativement douces, mais c'était la cocaïne qui était vraiment le gros problème,
à l'époque,
y compris chez des gens, je dirais, des cols blancs. Et je crois qu'une des difficultés d'aujourd'hui, elle est chez les jeunes, bien sûr, parce qu'elle fout en l'air une génération. Mais elle est aussi chez des gens qui ont aujourd'hui 50, 60 ans et qui ont des problèmes de cocaïne. Oui, vous avez raison. Mais je crois que c'est ça qui est embêtant aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est difficile.
Alors, en dehors de votre vie politique, vous avez été président de la Croix-Rouge française de 1989 à 92. Qu'est-ce que cet engagement vous a apporté ?
D'abord, pourquoi ? Parce que mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Madame Maurice Nègre, était présidente de la Croix-Rouge à Nîmes quand j'étais petite. Et je trouvais que c'était très, très, très intéressant d'être présidente de la Croix-Rouge. Et elle avait créé, à cette époque-là, un truc qui existe toujours, qui s'appelle le Préventorium, qui est là-haut sur la colline de Montory.
Oui, de Montory, oui.
Et nous... Moi, quand j'étais petite, on allait au préventorium parce qu'elle nous gardait quand on était petit. Pour moi, la Croix-Rouge, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma famille. Et il se trouve qu'il y a eu un problème avec la Croix-Rouge française parce que son président a été embêté. Son président était un homme magnifique, qui était l'ambassadeur d'Auge. Et il a eu une histoire médiatique. Et donc, il n'y avait plus de présidence. J'ai dit, oh ben, je vais peut-être y aller, quoi.
Bon, mais donc votre présidence à la Croix-Rouge vient de votre enfance nîmoise.
Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai aimé à la Croix-Rouge, c'est deux choses. C'est deux choses que j'aime toujours, d'ailleurs, dans la Croix-Rouge. C'est des gens... c'est une énorme association, la plus grosse association loi 1901 française. Et elle a gardé un sens de l'innovation. C'est-à-dire que sur des médecines dites alternatives, la Croix-Rouge a fait du boulot. Mmh. Sur le travail, sur le moral des gens, la Croix-Rouge a fait du boulot. En plus du travail classique de son personnel, elle innove. Et ça, je trouve ça formidable.
Et alors, bon, ma dernière question, maintenant, votre passion de l'autre, parce qu'on peut parler, on peut dire que vous êtes passionné de l'autre, de la rencontre de l'autre,
oui, ça, c'est vrai.
Se décline sous quelle forme ?
Attendez.
Actuellement.
Ah, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, ma vie a été transformée, comme je vous le disais tout à l'heure, par le fait que la présence de Jésus-Christ est venue dans ma vie le 8 août 88. Donc, ça a complètement changé ma vie. Parce que pour moi, j'étais protestante, certes, et je le suis toujours. Réformée, certes, avec des ancêtres qui ont été massacrés, certes. Mais je n'avais pas la foi dans un Dieu vivant. Pourquoi ? Ça peut s'expliquer, d'ailleurs. Et donc, j'avais la foi dans ma vie. J'avais la foi dans les autres, j'avais la foi, etc. Mais pas dans un Dieu vivant aujourd'hui. Et de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment je peux partager ça. Parce que là, ça donne la joie, la paix et l'amour. C'est-à-dire tout ce que j'avais envie de faire à travers la politique. C'est-à-dire d'aider des gens à vivre la joie qui demeure, comme le dit Jean-Sébastien Bach. Ben, c'est quand même génial, ça. Il n'y a rien de mieux, quoi. Et donc, depuis ce temps-là, ce qui m'intéresse, c'est de partager ça.
Eh bien, merci de cette délivrance, pas délivrance, mais de cette confession, si vous me permettez le terme.
Oui, hein. Oui. Même chez les parpaillots, on peut dire ça.
Cette confession de votre intimité, je vous remercie infiniment. Eh bien, Madame Dufoy, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir partagé avec nous votre vécu, vos engagements et d'avoir eu la gentillesse de venir nous rencontrer. Merci encore beaucoup pour votre passion de l'humain, de l'autre. Merci infiniment à vous et bonne continuation de vie.
Oui, merci.
Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Madame Dufoy de nous citer un livre ou deux qui a marqué.
Écoutez, je crois que j'en citerai qu'un seul. Et ça ne vous étonnera pas, je citerai la Bible. Pourquoi ? Parce que...
Mais l'Ancien ou le Nouveau Testament ?
Les deux. Absolument, deux. Ah. Absolument les deux. Absolument les deux. Absolument les deux. Parce que le Second Testament dépend du premier. Donc, avec Jésus en plus. Je crois qu'on a un peu... Alors, les catholiques ont un peu déifié la Bible, ce que je ne crois pas juste, parce que ça n'est jamais qu'un livre... un livre en papier, et les protestants ont vécu différemment. Nos ancêtres sont morts pour le fait de le lire, et ils l'ont un peu maintenant, je crois, intellectualisé. Pour moi, la Bible est devenue le mode d'emploi de la bonne vie. Pour être heureux, c'est pas compliqué. Le Créateur s'est exprimé auprès de créatures fort différentes au fil du temps, mais il leur a dit... Eh ben, voilà comment vous pouvez être heureux.
Bon, donc vous nous conseillez de nous plonger dans la Bible et d'humilité.
C'est pas compliqué quand même.
Je vous remercie à vous. Je remercie Louis à la technique Chanel Visuel. Je vous renouvelle mon annonce pour l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé. Un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.